1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django. Trois sujets au programme pour vous ce soir. On va commencer avec Vivre à Lausanne et un sujet en nouvelle diffusion. Il est question aujourd'hui d'aide aux sans-abri avec la Maraude Lausanne. Sujet à redécouvrir dans quelques instants, on en parlait initialement au mois de novembre dernier. À 18h20, la Rose des Vents ce soir avec Anouche. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Et avec toi et puis cette belle journée aujourd'hui printanière, nous allons parler ensemble des printemps des poètes.
Oui, effectivement, on va parler du projet Printemps de la poésie. Et aussi, il y a un groupe de requérants d'asile de la VAM qui vont participer à ce projet.
Magnifique. Avec un projet qui se déroule au mois de mars, tout bientôt.
Au mois de mars, oui.
Magnifique. Et puis, à 7h20, ce sera Cultiver Lausanne et nous allons... Je m'en étrangle, j'en perds ma salive. Ce sera avec toi, Claire. On va tout à l'heure décortiquer le quartier de Sévelin et puis tout ce qui tourne autour du printemps de Sévelin en trois volets.
Oui, en effet. Alors, Julie s'est intéressée de près à la programmation des quarts d'heure de Sévelin, qui est une plateforme pour les jeunes chorégraphes. Ensuite, on aura deux volets de micro-trottoirs qu'Emeline a préparé, où elle a été à la rencontre du public principalement. Et puis moi-même, votre serviteur, je vais faire un billet autour de ces spectacles qu'on a vus jeudi dernier.
Voilà, l'occasion de faire vivre cet événement au théâtre de Sévelin 36. La Maraude Lausanne, le printemps des poésies, de la poésie. Et les quarts d'heure de Sévelin, c'est le programme de cette 134e édition du Grand Direct à écouter sur radio.django.fm. Et sur le DAB de La Fabrique, je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne. Radio Django, vivre à Lausanne.
Dans Vivre à Lausanne, nous parlons ce soir, Fabio, de Maraude Lausanne, un groupe de citoyens qui apporte aux sans-abri une vie dans la rue un peu moins difficile en apportant nourriture, vêtements et les biens de première nécessité.
Oui, la Maraude Lausanne, c'est une cinquantaine de bénévoles, mais je crois que le chiffre, il change. On verra tout à l'heure avec notre invité à combien on arrive aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de bénévoles sur le terrain, les maraudeurs et maraudeuses de tout âge et conditions sociales. Et d'un staff logistique de soutien composé, lui aussi, d'un tas de personnes qui gèrent la récolte et la gestion de la nourriture, de vêtements et le site internet, ce dernier étant très important pour permettre justement de récolter le matériel, d'organiser les maraudes, etc., etc. On en parle avec Angelo Amato. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu fais partie de l'équipe de terrain, tu es donc un maraudeur.
Voilà.
Alors, pourquoi avoir choisi ce terme qui est plutôt assimilé à des personnes qui sont... Enfin, maraudeurs, c'est un peu les pirates, c'est un peu des bodies, non ?
Ouais, je comprends. Mais en fait, la maraude existe déjà en France, spécialement à Paris. En fait, c'est un groupe de personnes, des bénévoles comme nous, agissant sur Lausanne. Et on a repris ce terme des maraudeurs de Paris, donc justement pour Lausanne. C'est de là que vient ce terme. Voilà, exactement.
Depuis combien de temps tu fais ce... tu es maraudeur, en fait?
En fait, je suis un des tout débuts. J'ai commencé dès le départ. Ça fait environ 8 mois qu'on existe et qu'on est actif sur le terrain actuellement.
Alors, je le disais à l'introduction, vous êtes... Je disais une cinquantaine, mais je pense que vous êtes beaucoup plus maintenant.
Oui, actuellement, en fait, on a eu une grande, grande expansion. Au début, on était une petite équipe d'une 10 à 15 personnes qu'on a commencé au Sleep-In. Mais actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de mobilisation qui s'est effectuée par la bouche à oreille, par le biais d'Internet, de Facebook. Actuellement, on compte facilement 150 maraudeurs bénévoles qui sont sur le terrain. Et en plus, on a le groupe des Amis de la Maraude qui sont un autre groupe qui nous soutiennent logistiquement. En fait.
Mais qui eux ne sortent pas le soir.
Voilà.
Oui. Vous dites des maraudeurs bénévoles parce que tout le monde n'est pas bénévole donc.
Non, pardon. On est tous bénévoles.
Tous, il n'y a personne qui est payé.
Aucun.
Extraordinaire.
Oui. Alors, on le disait, il y a le groupe de soutien qui organise le tout. Et puis vous sortez le soir et vous allez visiter des sans-abri. Voilà. Comment se passe, Angela?
En fait, je commence un peu par le début, par la création de la Maraude. On a constaté que sur Lausanne, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui dorment dehors actuellement. On a évalué le nombre à peu près entre 300 et 500 personnes. Ça peut faire beaucoup, en fait, mais oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui dorment à la rue, spécialement dans la forêt aussi. Donc, là, une Maraude normale se déroule de cette façon. Donc, moi, je suis actuellement un des organisateurs de la semaine. Mm-hmm. Donc, je m'occupe d'organiser toutes les Maraudes qui vont se passer cette semaine. Donc, je m'occupe de regrouper les personnes, les volontaires qui vont marauder sur le terrain. Donc, il y a en tout cas 3 personnes tous les soirs. Et donc, une Maraude se constitue en tout cas par 3 personnes minimum. Et on va visiter plusieurs spots en leur apportant de la nourriture, des boissons chaudes, des boissons froides l'été aussi, des habits. Et certaines fois, on a des demandes bien précises par rapport à des habits. Ça, c'est vraiment le basique. Après, il y a des choses à côté aussi.
Donc, c'est des groupes de 3 maraudeurs et maraudeuses qui partent sur le terrain. Et il peut y avoir plusieurs groupes ?
Minimum. Oui, bien sûr.
Ah oui, OK.
Il y a 5-6 semaines en arrière, lors des grands froids, on a eu jusqu'à 12 personnes, jusqu'à 12 maraudeurs dans les rues, donc, qui se dispersaient en plusieurs équipes. On avait instauré aussi une maraude volante, c'est-à-dire qu'on visitait des spots qui ne sont pas les spots officiels, vu qu'il y avait vraiment les grands froids et les gens sont très mobiles. Donc oui, il y a eu vraiment jusqu'à 12 personnes dans les rues.
Parce que voilà, quand tu dis des maraudes des spots officiels, c'est quoi ? C'est des lieux où les gens de toute façon se retrouvent pour dormir depuis, et puis on le sait, puis ils sont là depuis longtemps ?
Pas forcément, ils dorment pas forcément dans ces spots que j'ai dit officiels en fait. C'est des spots, oui, que nous on connaît bien, donc il, oui, y en a 3 où on les visite tout le temps. Donc ce sont la Grenette, la place de la Riponne et Chaudron. Ce sont des spots là où on fait une distribution de nourriture, de boissons, et de là on aiguille aussi des personnes qui débarquent sur Lausanne en fait et qui ne connaissent pas du tout cette ville, qui ne connaissent pas les institutions où ils peuvent dormir. Donc on fait un aiguillage. Ils dorment pas vraiment à la Riponne,
oui, oui, mais c'est d'ici. Mais ils se préparent à partir en principe aux Lipines peut-être, ou bien s'il n'y a pas de place comme ça à dormir dehors.
Voilà, c'est dans la forêt, dans les parkings, un peu partout.
Et sinon, après, à part ces 3 spots officiels, voilà, continuons à les appeler comme ça, il y a les autres. Donc, il y a des lieux où les gens se retrouvent, vont pour, voilà, passer la nuit.
Bon, en fait, actuellement, on a un spot aussi qui est situé à l'abri. L'abri PC, donc, qui était en bas à la vallée de la Jeunesse.
Oui, oui.
Donc, il y a beaucoup de gens qui sont refoulés parce qu'il est très, très vite plein, l'abri. Et donc, c'est là-bas où aussi on va. On aiguille à peu près les personnes qui sont été refoulées par manque de place. Et eux, ces spots volants nous sont communiqués spécialement par des personnes sans domicile fixe que savent où d'autres personnes vont dormir, en fait. Et ça change d'un jour à l'autre.
Donc, vous avez un peu un système de renseignement comme ça, des gens qui vous téléphonent pour dire « Sachez qu'il y a tant de personnes qui, oui, dorment, oui, à tel et tel autre endroit. »
Voilà, ça m'est arrivé même des fois pendant la journée même où on m'a téléphoné pour m'avertir qu'il y avait une telle ou telle personne qui mendiait à tel endroit et que ça nous avait vraiment frappé. Donc, ça m'est arrivé de m'être déplacé, même en journée, d'essayer d'apporter une aide ou de trouver une solution avec ces personnes qui sont en grande difficulté.
C'est qui ces personnes ?
Ça dépend des endroits en fait. Actuellement, on a beaucoup à faire à des migrants, à des personnes qui sont des marginaux, il y a pas mal de gens qui sont dépendants à divers produits aussi. Mais il n'y a pas vraiment... Vous savez, actuellement, il y a vraiment n'importe qui peut être touché par cette grosse problématique.
On a parlé tout à l'heure aussi de l'État qui vient de diminuer l'aide pour le logement.
Voilà,
pour,
exactement. Ouais.
Pour donc les ça personnes vraiment... qui sont logées dans des hôtels, par exemple, où tout à coup, le tarif de location, il a diminué.
Voilà,
à
exactement.
Peu près de moitié.
Voilà, et donc les personnes se trouvent averties une semaine à l'avance, comme quoi ils doivent retrouver un endroit pour aller dormir, soit dans un autre hôtel, soit qui se débrouillent eux-mêmes. Donc, c'est vraiment des situations assez dramatiques.
Donc, on peut se trouver facilement dans la rue. Et voilà. Et c'est là que vous intervenez. Mais oui. vous, au fur et à mesure, vous connaissez des personnes là.
Oui, bien sûr. Oui, oui. On a tissé des liens, des personnes nous attendent, nous reconnaissent. je ne veux pas utiliser le mot de dépendance, on a créé une sorte de demande, une forte demande. Donc les personnes viennent exprès au point, comme je vous ai dit, aux trois points, donc Ripon, Grenette, Chaudron, et nous attendent pour avoir des colis avec de la nourriture, pour pouvoir échanger, pour demander des renseignements, pour être aiguillés vers d'autres institutions. Oui, il y a vraiment une forte demande et on est là pour amener de l'aide à cette demande-là, dans ce créneau bien précis.
Et puis, connaissant les personnes, vous connaissez sûrement leur état général, je dirais, physique, oui. Psychique, etc. Est-ce que vous dites tout à coup, tiens, il faut qu'on aille retrouver tel ou tel parce que oui. Cet an, il va pas si bien que ça.
Voilà, mais je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé cet été. En fait, on avait deux personnes qui étaient refoulées par les hôpitaux aussi. Donc, une personne qui était en fin de vie, un couple de personnes qui buvaient d'or et dont la femme était en fin de vie et qui a été mise d'or par l'hôpital. Par des problématiques qui se sont passées. Donc, ces personnes se cachaient en plus pour ne pas être amendées dans la forêt, dans les Hauts-de-Lausanne. Et ces personnes, exprès pour eux, donc, on se déplaçait, puis on tournait des fois jusqu'à une demi-heure pour les retrouver et leur apporter de l'aide.
Et il se peut que vous tombiez sur des personnes que vous ne connaissez pas.
Oui, bien sûr.
Hein, qui sont à coup d'orme à côté de ce couple. Que je sais
exactement.
Pas. Quel est l'accueil qui vous est réservé par ces personnes?
On est vraiment les bienvenus. Les personnes savent. Au début, ils étaient un peu réticents. Il y a eu des journalistes qui se sont promenés avec nous. Donc, ils avaient une certaine réticence par la peur que la police instaure des fois.
Qu'il y ait un contrôle, que ce soit
voilà,
un contrôle
plutôt que... Exactement, exactement. Ouais. En fait, là, ils nous connaissent, ils savent qui on est. Ils nous accueillent vraiment. On est vraiment les bienvenus. C'est très, très chaleureux. Et ouais, c'est vraiment des chouettes personnes. On est vraiment bien accueillis.
Angelo Amato, quelle est leur relation de ces personnes avec les autorités, avec la police notamment, justement? Ils en ont peur, vous le dites?
Oui.
Ils ont peur de quoi, finalement?
Bah, écoutez, il y a une sorte de non-sens en fait, qui se fait parce que actuellement à Lausanne, on n'a pas le droit de dormir à l'extérieur. On est amendable si on dort dehors. Donc la police, lors d'un contrôle inopiné, contrôle un SDF, lui met une amende. Ok, la personne n'a pas d'argent parce qu'elle dort à l'extérieur. Deux jours après, la personne recontrôle le même SDF, voit, se rend compte qu'elle a une amende impayée pour dormir à l'extérieur et lui prend l'argent qu'elle a sur lui, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est pour ça qu'il y a une certaine tension qui se crée.
Pour revenir à l'exemple du couple tout à l'heure où il y avait cette femme qui était dans une situation très précaire physiquement, est-ce que ça vous arrive de vous contacter des services sociaux pour dire, là, il faut faire quelque chose?
Oui, bien sûr. Oui, on a une très, très forte collaboration avec plusieurs institutions étatiques, en fait, dont EMUS, qui sont les services d'urgence sociale. Et dès qu'on a une présomption de... Bah, on a eu affaire à des personnes qui étaient en overdose, quasiment. Donc, on appelle, on demande systématiquement de l'aide à des personnes compétentes, bah, là, dans la santé, justement, de ces personnes-là, oui, on les contacte.
Et puis alors c'est, je ne sais pas, des médecins par exemple ou des assistants sociaux, est-ce qu'ils viennent sur place, est-ce qu'ils se déplacent avec vous lors du maraude?
Non. Oh, non, c'est parce que nous en fait on n'est pas une association étatique, on est vraiment dans un groupe de bénévoles, on fait ça, c'est nous qui avons décidé.
Vous ne mélangez pas les choses.
Voilà du tout, on ne veut surtout pas faire de doublons, on ne veut pas marcher sur les plates-bandes d'institutions étatiques qui eux sont subventionnées par l'État, et que c'est des professionnels, ils sont là, ils connaissent leur boulot, mais on fait appel à eux. Justement, EMUS, c'est des services sociaux de la santé, en fait. C'est des médecins, des infirmières, des assistants sociaux qui tournent sur le canton de Vaud 24 heures sur 24 pour des urgences sociales.
Donc vous êtes devenu, en si peu de temps, vous êtes devenu assez important sur la place de Lausanne par rapport à cette dette d'urgence, quoi.
Oui, parce qu'il y a besoin. Il y a une forte demande et on a besoin de nous.
D'accord. Et puis, donc, ça signifie que s'il y a besoin, il y a, disons-le, franchement, il y a d'autres services qui n'ont pas fait leur boulot.
Non, pas tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup... Bah, justement, les gens se rendent compte qu'il y a eu cette grosse crise migratoire qui s'est instaurée dans l'Europe entière. Voilà, on apporte de l'aide à un segment bien précis. Ce n'est pas que les institutions étatiques donc, n'ont pas fait leur boulot, c'est qu'il y a des nouvelles demandes qui se créent et qui se génèrent.
D'accord.
De nouveaux besoins.
De nouveaux besoins.
Voilà.
Alors, on lit sur le site que vous êtes un groupe de Lausannois sans appartenance politique ni religieuse. Oui. Et puis on le sent aussi dans ce que tu nous dis, c'est pour marquer votre indépendance.
Hein. Claire.
Est-ce que c'est important pour toi cette clarification ? Pas d'appartenance religieuse et politique.
Bien sûr, parce qu'on est plusieurs, on a des groupes de personnes qui sont issues
de différents,
voilà, différents milieux, de différentes classes sociales, différentes appartenances religieuses. Mais notre but, en fait, c'est d'apporter de l'aide, point final. Sans aucune discrimination, que ce soit raciale, religieuse, aucune.
D'accord. Comment vous recrutez les maraudeurs et maraudeuses ?
On ne recrute pas spécialement, en fait, c'est les maraudeurs qui viennent à nous. Ça se fait beaucoup, au début, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. Maintenant, on devient vraiment connu par les médias, justement aussi, par les actions qu'on a faites. Et il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur le site de la Maraude comme des futurs maraudeurs, en fait. Donc, c'est des personnes eux-mêmes qui prennent contact avec nous et on s'occupe ensuite de gérer toutes ces personnes.
Et quels sont les défis pour la Maraude ces prochains temps ?
De continuer sur le chemin qu'on a pris, d'apporter de l'aide sans discrimination, sans discrimination aucune, et de continuer dans ce côté-là, dans ce sens-là.
Merci, Ange Aimé, sans traduire littéralement votre nom, Angelo Amato. Merci d'être venu nous en parler ce soir de la Maraude sur Radio Django, qui, rappelons-le, la Maraude Lausanne apporte de l'aide aux sans-abri à Lausanne principalement. On pourrait encore parler longtemps de votre action, notamment, mais on ne manquera pas de venir, en tout cas, essayer. Hein, vous disiez que c'était délicat. Super. De venir avec un micro, vous suivre une fois, l'objectif peut-être d'une prochaine émission.
Ça a été fait, mais il faut quand même qu'on avertissent avant les bénéficiaires.
Histoire de ne pas avoir une mauvaise surprise.
Voilà, exactement.
Voilà, et puis si vous voulez rejoindre les maraudeurs, collecter du matériel qui sera amené au sans-abri, cuisiner un plat ou tiens, pourquoi pas faire un don, une seule adresse qui vous donnera toutes les informations, adresse et numéro de téléphone, maraudelausanne.wordpress.com, maraudelausanne.wordpress.com ou encore sur Facebook et Twitter. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Fabio également pour la préparation de ce sujet. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy.
I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous les présenter encore ? C'est Queen avec cette chanson Don't Stop Me Now. C'est pour vous, c'est sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Anouche.
Bonsoir Fabien.
18h21, on parle avec vous de La Rose des Vents. Vous êtes rédactrice à Voix d'Exil et nous parlons ce soir ensemble des Printemps de la Poésie, un projet auquel des requérants d'asile de l'EVAM participent actuellement.
Oui, depuis 3 ans, avec la venue du printemps, l'Université de Lausanne organise le Printemps de la Poésie. Cette année, l'événement aura lieu du 12 au 24 mars dans toute la Suisse romande, avec un point d'orgue le 21 mars qui correspond à la Journée mondiale de la poésie de l'UNESCO. De nombreux événements sont prévus, comme des rencontres, des débats et des ateliers. Et le public pourra découvrir ou redécouvrir à cette occasion cet art qu'est la poésie sous toutes ses formes.
Et puis, un groupe de requérants prépare des performances même à cette occasion. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelques détails ?
Oui, le Printemps de la Poésie est en fait un événement qui établit de nombreuses collaborations avec des institutions, des associations et des lieux culturels. Et l'EVAM est un des partenaires. Et un atelier a été mis en place avec des requérants d'asile pour préparer une performance qui sera présentée le vendredi 23 mars à 19h à la Casona Latina à Lausanne. Et l'entrée est libre. Et je me suis d'ailleurs rendue à cet atelier pour observer comment cela se passe.
Et puis, que représente la poésie pour les requérants d'asile à ton point de vue, Anouche ?
Tu sais, Fabien, dans le monde de l'asile, c'est très important de pouvoir s'exprimer, de parler de tout ce qui entoure cette expérience douloureuse. Et la poésie est un moyen de donner libre cours à son imagination. Et les mots sont des fenêtres sur la réalité.
Une source de liberté, donc. Et pour en parler ce soir de cet atelier de l'EVAM, tu as invité 2 personnes.
Oui, alors j'ai le plaisir d'accueillir Leandro Cagnazzo, qui est le coordinateur de cet atelier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et qui est accompagné d'Alain Tito Mabiala, originaire de la République démocratique du Congo, qui est auteur et participant de l'atelier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Bienvenue sur Radio Django.
Alors, je vais d'abord m'adresser à Leandro. Comment s'est mise en place cette collaboration entre le Printemps de la Poésie et l'EVAM et quel est ton rôle ?
Alors, l'idée de collaboration est partie d'abord de discussions informelles entre le staff du Printemps et des enseignantes de l'EVAM, Corinne et Marisa. Puis ensuite, il y a eu un contact officiel avec le service de communication de l'EVAM qui a organisé une rencontre à laquelle j'ai participé. Et voilà, ça s'est très bien passé. On va dire, on a partagé une passion en commun. Et puis, l'idée de présenter un événement dans le cadre du printemps 2018 m'a tout de suite attirée. J'ai dit que j'allais regarder ce qu'il était possible de faire. Et puis, j'ai fait marcher un petit peu les contacts avec les collègues qui m'ont donné une liste assez impressionnante de migrants qui font de la poésie. Je me suis dit, alors bon, voilà, il y a de quoi montrer ce travail au public.
Bon, et serais-tu d'accord de nous décrire comment se déroule concrètement cet atelier ? Qu'est-ce que vous faites ?
Bien sûr. En fait, du moment qu'on avait trouvé des migrants qui étaient d'accord de parler de leur travail, de faire des lectures ou d'autres formes culturelles, on a organisé des répétitions. Donc, on se rencontre une fois par semaine. Au début, on était tout le groupe, les enseignants plus les migrants. Et depuis presque un mois maintenant, un comédien et performeur professionnel, Andrea Marioni, nous a rejoint. Et bien sûr que son point de vue est bienvenu, puisqu'il a l'œil d'un professionnel et c'est lui qui mène les répètes. Nous, on assiste pour donner un coup de main, pour donner un petit peu notre opinion. Voilà. Donc le processus créatif se déroule comme pour tout spectacle, avec des répétitions et à chaque fois des petits travaux, des choses à améliorer.
Est-ce que ce sont les participants qui choisissent les poésies qu'ils vont déclamer? Et c'est très intéressant, en quelle langue et quels sont les principaux thèmes abordés?
Alors oui, c'est eux qui les choisissent dans les premières répétitions, donc où il n'y avait pas encore le metteur en scène professionnel. C'était très important de leur transmettre ce message, on était tous d'accord, donc les enseignants qui faisaient partie de ce petit comité, leur dire, vous choisissez ce que vous voulez lire, vous choisissez la forme aussi, après, voilà, on fera ce qu'il est possible de faire. Donc chaque auteur pouvait choisir aussi comment il allait présenter son texte, projection, lecture, lecture par quelqu'un d'autre, enregistrement, tout était possible, il fallait que ça vienne vraiment de lui. Et voilà, il y en a aussi qui ont exprimé le souhait de lire le texte en langue originale, il y aura donc des textes en français, mais aussi en farsi et en arabe.
Et déclamer en public une poésie, c'est aisé pour les participants?
Non, ça dépend. Ça dépend. Pour certains, c'est la routine. Ils sont vraiment habitués. Et pour d'autres, notamment en français, c'est quelque chose qui demande une préparation. D'où le fait aussi d'avoir la précieuse aide d'Andrea Mariani. L'entraînement d'ailleurs se fait de manière assez rigoureuse. Chaque semaine, il progresse dans la lecture ou la déclamation ou la récitation ou autre.
Et pour toi personnellement, qu'est-ce que cette expérience t'apporte? Et aurais-tu une belle anecdote à partager avec nous?
Ben, ça m'apporte le plaisir de travailler avec la création vivante. Moi, je travaille dans l'enseignement, alors c'est très vivant aussi. Mais là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fort. On entre tout à coup dans l'intimité des personnes, de leur écriture, de leur travail de création. Et puis, bah, bien sûr, alors des anecdotes, il y en a déjà tout plein. Enfin bon, après, moi, celle qui m'a le plus touchée, c'est quand l'un des auteurs a lu son texte en français, puisqu'il avait fait l'effort de le traduire. Donc, il l'a lu comme ça directement en français. C'était déjà tout plein, c'était une poésie assez abstraite comme ça, c'était déjà tout plein d'émotions. Et puis un compatriote lui dit, mais attends, mais lis-la en farsi pour que je vois aussi en farsi ce que ça donne. Et il a eu une réaction, mais complètement différente, voire opposée. Donc ça nous a montré aussi toute cette tension qu'il y a entre la langue et la traduction. Et la richesse de la langue porteuse de plein d'autres choses.
Mais alors vous suggérez plutôt de le faire en langue originale?
Ça dépend. Oui, bien sûr que moi j'adore entendre la langue originale.
Même si on comprend pas tout.
Ouais, oui, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être la frustration de ne pas savoir de quoi ça parle. Donc, tout plein d'idées se sont créées dans les répétitions pour soit projeter, soit voilà. Vous verrez. Mmh. Vous verrez.
Et toi, Alain, tu es donc un des participants du projet et tu es aussi auteur. Que présente pour toi l'écriture libre?
L'écriture pour moi est une respiration. L'écriture pour moi, pour quelqu'un qui est en exil, c'est aussi un processus de renaissance. L'écriture pour moi, c'est aussi une manière de m'amnésier de la douleur de l'exil, de reconstruire des symboliques pour donner un sens à ma vie. Donc si je n'écris pas, probablement je mourrai.
Et qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait?
L'écriture m'apporte la paix, l'écriture m'apporte l'équilibre, l'écriture m'apporte de la transcendance. Ça veut dire que les processus d'asile, comme tout le monde le sait, c'est pas facile. Donc entre tout ce qu'il y a comme procédure administrative et l'attente, l'espoir espéré qui n'arrive pas, et voilà, il y a un peu l'angoisse, l'anxiété, et l'écriture c'est un peu... je suis dans une instance d'anesthésie permanente.
Wow. Et pourquoi tu as choisi de participer au Printemps de la Poésie?
Bon, je pense que c'est toujours agréable de communier avec d'autres douleurs, en fait. Communier avec d'autres douleurs, communier avec d'autres cultures. Voilà, nous sommes tous des produits d'une certaine itinérance, donc nous sommes dans une convergence d'itinérance, et probablement il en ressortira une forme de ressemblance. Et dès là, probablement l'humanité va triompher. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul homme sur la Terre, et voilà. Ce qu'on nous a toujours dit, c'est ils sont. Et toute cette catégorisation raciale, des fois, c'est un peu diviser les hommes. Donc, on se rend compte que voilà, la peur, l'anxiété, la douleur, elle est la même partout, en fait. Et les mots les traduisent très bien.
Alain, toi, tu rejoins aussi ce que disait Leandro par rapport au fait de pouvoir s'exprimer par la poésie.
Oui, j'ai quelques textes que j'ai choisis assez personnels. Je pense que la poésie, c'était un peu les chants de l'âme, comme disait Senghor, donc je vais quand même me dévoiler un peu.
Mm-hmm. Bon, on va en profiter. Est-ce qu'on ose te demander un court extrait de ce que tu as écrit ?
Alors, pour moi, Lausanne est Lausanne est un poème. Je pense que ceux qui sont nés ici peut-être l'ont déjà ressenti, ou bien ceux qui sont poètes des Lausanne, originaires de Lausanne, l'ont ressenti. Moi, dès que je suis à Lausanne, j'ai fait écrire des textes. Alors, le texte que je vais lire s'intitule « Un samedi matin sur l'avenue Saint-Laurent à Lausanne ». J'aime le samedi matin en centre-ville de la rue Saint-Laurent. L'atmosphère transpire d'une insaisissable gaieté pendant l'air. Des pas empressés retentissent sur le pavé. Des talons cognant à un rythme saccadé, les dalles indifférentes à cette marche. Des clients sillonnant cette avenue achalandée des produits du canton de veau profond. Les légumes et les fruits de couleur chatoyante embellissent la vue, décorent les sites. Des voix conviviales emplissent les instants. La bonne humeur est partout et indéniable. L'enthousiasme devient accessible à qui veut en bénéficier. Les marchands d'une voix enchanteresse charment les clients. Certains s'arrêtent, observent les produits installés sur la table, discutent, puis en choisissent quelques-uns de plus frais. Les vendeurs se dépêchent de les mettre dans un emballage en plastique. La transaction est conclue, les billets s'échangent, les civilités se disent avec des sourires remplis de satisfaction mutuelle. À côté, les associations de la société civile et politique tentent de persuader le plus grand nombre de rallier leur cause par la distribution de prospectus. L'ambiance est joviale. Les jours n'est point comme les autres. Au contraire, il est bien significatif de la simplicité qu'il nous faut à chaque instant pour mieux sentir le plaisir de vivre sur Terre.
Merci.
Merci beaucoup, Anandi Thomas Biata, un de vos extraits. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce soir et de nous avoir partagé cet extrait.
Je vous en prie.
Également, merci à vous, Leandro Cagnazzo.
Avec plaisir.
À tout bientôt, puis plein succès pour ce festival qui arrive tout bientôt.
Oui, merci.
On rappelle que cette troisième édition du printemps de la poésie aura lieu du 12 au 24 mars dans toute la Suisse romande. Quant à l'événement dont nous avons parlé à l'instant, il aura lieu le vendredi 23 mars à 19h à la Casona Latina de Lausanne. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'événement printempoésie.ch, un sujet qui a été réalisé par Voix d'Exil et par Anouche. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonne soirée, à tout bientôt. Et Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs, un sujet à retrouver sur voixdexil.ch et sur django.fm.
Radio Django, culture.
Et avec quelques minutes d'avance, on ouvre ce volet culturel de ce grand direct avec trois jeunes femmes autour de moi. Emmeline, Julie et Claire, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes trois jeunes de Culture Radio. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rappeler qu'est-ce que c'est que Culture Radio ? On en a parlé largement il y a quelques semaines, 15 jours pour être tout à fait précis. Vous êtes des jeunes qui faites de la radio pour aller découvrir des événements culturels. Et ce week-end avait lieu les quarts d'heure au théâtre de Sèvelin 36. Cette plateforme accueille 7 jeunes chorégraphes qui présentent leur travail lors de 3 représentations publiques. Ces derniers ont donc un quart d'heure pour présenter une œuvre de leur choix qu'ils ont créée eux-mêmes. Pour cela, ils ont l'aide d'un professionnel qui offre son regard extérieur. Étudiants de la manufacture, mais aussi originaires de tous horizons, ces jeunes ont l'occasion de montrer de quoi ils sont capables et de partager leurs univers à un public plutôt varié. Bonsoir Emeline.
Bonsoir.
On va commencer ensemble. Tu y étais jeudi dernier.
Ouais, effectivement. Et le public était là nombreux. Et pour différentes raisons qu'on va entendre tout à l'heure. Et j'ai pu le constater en les interrogeant avant et après le spectacle que la foule est vraiment très hétéroclite. Il y a des jeunes, des moins jeunes, qui sont venus pour découvrir la scène contemporaine, soutenir des proches, lors de cet événement qui n'est pas tout à fait comme les autres. Donc je suis allée prendre la température avant le spectacle, afin de savoir ce qui attire le public lors de cet événement.
Et on écoute tout de suite les résultats de ton enquête auprès du public de la représentation de jeudi soir.
Voilà, je voudrais savoir à quoi est-ce que vous vous attendez en venant ici ?
En fait, je suis jamais venue. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai une copine qui danse ici. Donc, qu'est-ce que je m'attends ? Dynamique, avec beaucoup de mouvements et très captivant. Voilà.
Et ben, je m'attends à voir tout ce que la scène contemporaine de danse romande a de plus beau à nous proposer. Donc, en pratique, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'ai bon espoir d'en avoir plein les yeux.
Qu'est-ce que vous vous attendez à voir au quart d'heure ?
Plein de gens différents qui font des trucs différents.
Des petites fenêtres qui ouvrent des choses nouvelles.
Qu'est-ce que vous vous attendez à voir ?
J'ai pas d'expectatives particulières, j'attends simplement à voir des gens qui créent des nouvelles choses. C'est ça qui m'attire. J'aime bien la danse contemporaine.
À quoi tu t'attends en venant voir les quarts d'heure ?
Voir de la danse.
D'accord.
On vient voir notre fille.
D'accord. Et vous alors, qu'est-ce que vous vous attendez à
voir ? Voir de la danse d'avant-garde.
Et bien tout ce qui fait maintenant la nouvelle danse contemporaine.
D'accord, et pourquoi vous venez ?
Parce que je suis programmatrice de danse et que je m'intéresse à tout ce qui se passe.
Alors la question elle est très simple, qu'est-ce que tu t'attends à voir ce soir ?
Ma copine.
C'est une bonne réponse.
Voilà, elle joue dans un des spectacles, donc je viens la voir elle.
J'aime la danse et les jeunes danseurs, il faut les soutenir. Donc ça m'intéresse, c'est tout. C'était nul. Hein.
Non, c'était une jolie réponse.
Alors je suis totalement ouverte, je connais pas bien la danse contemporaine, donc je m'attends, j'espère beaucoup de créativité et beaucoup de belles découvertes.
En somme, le but principal des quarts d'heure, c'est la découverte, Emeline.
Ouais, je pense que dans l'ensemble, les gens ils viennent vraiment pour prendre la température de la nouvelle scène contemporaine. Même si certains projets ne sont pas toujours complètement aboutis, c'est aussi le but de cet événement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de créativité, voire même d'effervescence sur scène.
Mmh. Voilà, on aura l'occasion donc de découvrir la suite de ton reportage dans quelques instants avec ce que les gens ont pensé de ces représentations. Julie, 7 projets, on l'a dit, qui ont été présentés au public lors de cette édition des quarts d'heure de Sèvelin. Et c'est donc autant de descriptions que l'on retrouve sur le site et sur le flyer de l'événement. Vous avez scruté en détail ce programme pour nous.
En effet, Fabien, la mise en mode des créations contemporaines m'interpelle souvent. Le premier texte de projet des quarts d'heure que j'ai lu, ce fut celui-ci. En boucle, d'un larynx s'échappe un son. Un son jaillit d'un corps. Un geste sort de toi. de toi sort du sens. Ou pas. Court, spontané. Ce texte qui décrit Neuroplastique de Jade Albacini m'a attrapé par son « ou pas » qui inscrit l'idée du risque d'un résultat autre. Et ce risque, il est bien, bel et bien là dès la lecture du flyer. Et oui, Fabien, comment savoir si les images qui me viennent en tête à sa lecture vont correspondre, un tant soit peu, à ce que je vais réellement voir sur le plateau du théâtre ? Et encore, c'est en admettant que les mots choisis appellent des images en moi.
Parfois, rien ne vient ?
Rien. Ou tout et n'importe quoi. C'est le cas avec le texte de « Don't play that song for me » de Ruby Subrisé, qui nous dit vouloir traiter de l'identité, loin de l'envie de plaire et du conformisme. Ça vous évoque quelque chose à vous, ces mots passe-partout ? Attendrissante facilité, car qui n'a pas, un jour, eu recours à ce subterfuge afin de conclure, au hasard, une dissertation.
Mais rassurez-moi, certains textes vous ont aussi parlé.
Absolument. Même en quatre lignes, certains mots activent des références personnelles à des imaginaires. Les allitérations de Simon Crétol pour présenter Soul emportent déjà le lecteur dans le souffle et qui porte sa performance. Écoutez donc. Sous le vent, houlent souvent les foules d'enfants fous, foulant les souffles lents des volants et voulant sans s'essouffler, s'envoler fougueusement dans les landes où sifflent et dansent les sylphes. L'évocation des sylphes, ces génies aériens de la mythologie celte, font surgir une recherche spirituelle. Cette recherche, je l'ai aussi retrouvée chez Milena Bukel avec son « Trying to disappear », décrit comme une ode à l'imperceptible et au sensible, à l'éphémère, mais aussi une farce pour se jouer de notre grande disparition finale. Représenter la disparition, voilà un enjeu qui a retenu mon attention.
Et justement, puisque vous avez assisté à cette performance, comment est-ce que ça a pris forme ?
Imaginez Fabien un grand drap blanc qui recouvre les sièges du public. Nous sommes alors, nous les spectateurs, assis sur le sol du plateau comme face à notre propre disparition. Puis lentement, le drap s'anime, se gonfle. Après coup et par association, cette performance m'a évoqué le très beau film A Ghost Story de David Lowery où un homme recouvert d'un drap blanc, fantôme au fantas, observe la vie de ses proches sans lui.
Mmh. Il y en a d'autres qui vous ont surpris ?
Le titre et le texte de présentation des bourgeoises de Sarah Bucher et Victor Poltier m'ont aussi catché. Leurs peaux sont si blanches que lorsqu'elles demeurent immobiles en contemplant la rue, on pourrait croire qu'elles sont mortes. Leur conduite est irréprochable. Comment ne pas penser, étude de lettres oblige, à Emma Bovary ? Et même si, je dois être honnête, cette performance a créé un malaise en moi de par sa dramaturgie, le texte et la description collent parfaitement. Inversement, Electrum de Judith Dess, dont la lecture et la description n'éveillaient rien en moi, m'a saisi dès son début de par l'aspect rétro-futuriste de sa mise en scène.
Quelle conclusion est-ce que vous tirez lors de cette comparaison entre les descriptions et la performance ?
Que les textes de description, c'est bien joli pour la com, mais qu'il ne faut pas s'y arrêter. Car rien ne vaut une confrontation en face à face avec la création. Il faut prendre le risque d'être déçu, surpris, mal à l'aise ou bluffé. Laisser une chance à nos émotions de surgir, tout comme les quarts d'heure en laissent une à ces jeunes chorégraphes.
C'est plutôt vif, hein ? Mais bon, c'est votre avis. Merci beaucoup, Julie, d'avoir décortiqué ce programme et ces liens historiques, j'aurais presque envie de dire, en tout cas ces liens littéraires, de ces 7 performances des quarts d'heure de Sévelin. Merci beaucoup, Julie. Emeline, retour avec toi sur les spectateurs. Les projets des jeunes créateurs sont pour le moins originaux et bousculent ceux qui sont venus les voir. Est-ce que ça provoque beaucoup de réactions globalement ?
Ouais, pas mal. Il y a ceux qui l'ont détesté. Et puis il y a ceux qui repartent chez eux conquis. Dans tous les cas, ces 7 quarts d'heure ont provoqué des réactions chez ceux qui les ont vus. Personnellement, je m'en sors jamais vraiment indemne. Bon, dans le bon sens du terme. J'aime beaucoup assister à ces représentations parce qu'elles offrent énormément de sensations.
Et ça, t'as donc plutôt plu, hein, si on t'entend. Qu'a pensé le public lausannois de cette projection pour la moins originale ? Réponse à la sortie du théâtre jeudi dernier.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous ramenez à la maison ?
Ah, c'était féerique, il y avait des clowns, il y avait du vent, il y avait de la métaphysique, il y avait de la folie. Franchement, c'était bien.
Alors, qu'est-ce c'était que tu as
plein de différentes images qui sont rien forcément à voir.
Ah ben il y en a qu'un.
Non,
c'est pas
lequel?
Les autres, c'est nul. Hein. Ah ouais. Electrum.
D'accord. Ouais. Et vous alors?
Ah mais je suis de la vie aussi. Electrum, c'était très bien.
D'accord.
Bah c'est super. On découle la nouvelle création, plein de trucs émergents. Après, il faut les prendre aussi comme ce que c'est, à savoir des
des pratiques pas forcément toujours abouties, mais ça donne un peu un instant de ce qui se passe à un moment, et c'est très intéressant, je trouve, à cet égard-là.
Est-ce que vous pourriez me dire rapidement qu'est-ce que vous retenez de cette soirée et qu'est-ce que vous ramenez chez vous?
Je retiens la grande qualité des danseurs, vraiment ils interprètent de plus en plus fort. Et puis après, je retiens aussi la force de la diversité de la danse contemporaine. On voit très bien d'où les gens viennent, s'ils viennent de la Fun Facture, s'ils viennent du Ballet Junior. Et puis après, il y a des univers qui me touchent plus que d'autres, des choses plus fragiles à développer. Mais voilà, je trouve que c'est super. Je retiens surtout quelque chose de très dynamique et très généreux. Et vraiment une ambiance bienveillante aussi, avec tout le monde qui est d'accord de voir que les choses ne sont pas encore parfaites, mais sont pour certains en devenir. Voilà.
Qu'est-ce que je ramène à la maison? Une respiration. Voilà.
Mais un changement de point de vue.
Ok.
Une autre manière, enfin juste une autre manière de voir les choses. Un autre focus.
Ah, c'est le truc là. C'est vraiment dégueulasse. Que...
Lequel? C'était le celui de
Le premier de la deuxième partie était vraiment bien. Avec super kitsch, avec plein de couleurs. Là.
Vraiment bien léché et tout, elle est bien ensemble. Quoi. Il y avait beaucoup de. C'était. Ouais. Ah bah. Très hétéroclite, mais tout allait bien ensemble.
Après tout ça, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens?
Une richesse, plein d'univers. Des sujets qui touchent, d'autres qui touchent un peu, qui me touchent un peu moins, mais beaucoup de générosité. Voilà.
Des réactions intéressantes, hein, en effet. De manière générale, on peut dire que c'était une réussite, hein, Emeline.
Ouais, je pense que dans les grandes lignes, le public était vraiment conquis. Quant à ceux qui ont détesté, ben, le but de l'art, c'est aussi de déranger quelque part. Donc au final, l'essentiel, c'était de ne pas laisser indifférent. Et là, pour le coup, je pense que c'est mission accomplie pour ceux qui ont présenté leur travail ce week-end.
Bon, ben voilà, on retiendra ça comme conclusion. Donc on félicite les artistes des quarts d'heure. Et on te remercie, Emeline, d'avoir mis ton micro dans l'ambiance de ce public. Merci beaucoup. Claire, avec toi, on va parler ensemble maintenant de ce que tu as vécu et l'ambiance jeudi dernier.
Oui, alors les quarts d'heure de Cévelin, donc, c'était une atmosphère plutôt cool, branchée et franchement nullement prétentieuse. J'ai trouvé que c'était même assez bon enfant, on peut dire, parce que c'est qui dit la relève dans le milieu de la danse contemporaine dit souvent jeunesse. Une jeunesse qui avait son fan club entre amis et famille pour venir la supporter lors de la première représentation qui se déroulait jeudi soir. Et quel jeudi soir, les amis, un de ces jeudis qui donne envie, après ses prestations pleines de mouvance, d'aller justement bouger son petit corps sur un dance floor et s'abreuver de bière au gingembre. En tout cas, moi, ça m'a fait cet effet. Mais revenons à ces 7 créations chorégraphiques pleines d'envie, de fraîcheur, mais aussi d'image. Nous sommes là, tout public confondu, quand on entre dans la salle de spectacle. On s'attend à aller gentiment s'asseoir dans les sièges, mais non, ceux-ci sont bloqués, enveloppés par une sorte de tissu blanc énorme qui les recouvre, une sorte d'installation, de tissu contemporain. Une impression de manoir aussi, fermé depuis des années, avec des draps blancs sur les meubles. Alors ben, on s'assoit où on peut, c'est-à-dire sur le plateau. Pendant 2 secondes, là, je me dis, ça y est, il y en a un qui a décidé d'incorporer le public à son spectacle, de nous utiliser comme scénographie. Et puis non, non, du vent se fait entendre, un orage même, on ne sait plus trop, mais ça tonne dans les enceintes. Le tissu commence à bouger, une sorte de chose en dessous serpente entre les sièges. Le spectacle est avant tout visuel. Une performance de Milena Buckle qui interroge l'invisible sous les feux de la rampe. Une prestation plus contemplative que chorégraphique, puisque cette performeur vient du monde des arts visuels et pas en soi de la danse. Une outsider qui a été choisie parmi les autres artistes pour exprimer ici, sur ces planches qui sont d'habitude confiées aux danseurs, que la relève parmi les arts a plusieurs formes. Et c'est bien dit, merci Cévelin, ça me donne plus de courage pour fermer le clapet et les messes basses de 2 personnes à côté de moi qui sont alors bien bien, mais alors pro-danse et qui sont venues ce soir-là apparemment pour voir des danseurs, nom de bleu. On est dans un théâtre de danse, on veut voir des danseurs. Enfin bref, bonjour l'ouverture d'esprit à ce moment-là. Mais après ce petit détail agaçant, une nouvelle proposition s'enchaîne après cette contemplation. Changement de position pour nos petits yeux, nous voilà maintenant assis sur ces bons vieux sièges. Une petite tornade d'onomatopée se fait entendre dans la salle. Et là, c'est Jade Albicini et sa comparse Alexandra Gentil qui se profilent pour nous raconter avec leur corps le lien entre le cerveau et le corps, justement. Elles s'agitent, elles agitent leur physique et leur verbal pour représenter avec humour les blocages du processus de création. Ah ouais, ces blocages qu'on connaît bien. Hein. Tantôt ils sont là, tantôt ils sortent de nous, de moi, de vous. Ils jaillissent du corps, comme elles disent, ou non, plutôt comme elles le dansent, car elles dansent ces blocages et elles dansent ces mouvements qui sortent un peu d'elles-mêmes sans trop le comprendre. Leur création est une petite pépite rythmique faite de loops sonores et de chaloupes du corps entre elles et l'espace vide qui les entoure. On sourit, c'est joyeux, malicieux de leur part. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est bien parti pour avoir une certaine audace de la part des artistes. Et effectivement, de la malice survient ensuite une nouvelle prestation. Oui, parce que, bien sûr, je le rappelle, on passe de 15 minutes en 15 minutes de spectacle. Hein. C'est le principe et la règle du jeu des quarts d'heure de Sèvelin. Alors, c'est de quoi s'en mettre plein les mirettes. Et dans une atmosphère moderne et nocturne, à ce moment-là, une silhouette apparaît, habillée de foulard jusqu'au visage, carrément cachée, camouflée. C'est celle de Simon Crétol, qui, lui, est fasciné par la magie des sorcières et aussi, lui-même, il est habité par la féminité. Son corps soupire et se fait bercer par les nappes sonores de son ami musicien sur scène et par les mouvements d'air créés par des ventilateurs. Alors, imaginez donc ces ventilateurs dans un espace vide. Là, ça me donne l'impression de me retrouver un peu en studio photo pour shooter la prochaine collection de Issey Miyake. Le jeune danseur joue un peu à cache-cache avec le public derrière ses étoffes légères qu'il porte et il invite aussi le spectateur à le regarder se dévêtir jusqu'à ce que cet androgyne, parce qu'il est androgyne, fasse écho à un symbole fort, en finale, celui du Christ. Jésus-Christ est parmi nous, les amis, à Sèvelin, à ce moment-là, quand Simon Crétol se laisse traverser par la liberté d'être au monde, nu, sur scène, au final, avec cette très belle fragilité. Et de la fragilité apparaît ensuite, alors là, un tout autre, on va dire, univers, un trio moléculaire qu'on pourrait croire sous acide, tellement la dynamique change de camp. Sous les faits et gestes de Nicolas Mayorga Ramirez, Karine Daoudji et Marius Bartho, ce trio se mêle et s'entremêle pour nous évoquer une sorte de plan à trois qui nous met, ma foi, un peu dans un certain émoi. Ils sont à vif, ils rythment les corps, les formes improbables et entraînent une danse dans un flot bousculé et ballotté par une bande-son digne d'une soirée menée par la crème des crèmes des DJ. La frénésie a l'air de monter dans la salle. Dans le public, les têtes se balancent et ça tape fort du pied. Alors là, assise dans mon siège, je me dis, sacré nom de nom, qu'est-ce que c'est inspirant la danse, Mazette. Ça donne envie de créer. Je troquerais bien un moment de ma place de spectatrice pour aller à l'intérieur d'un de ces corps mobiles sur le plateau pour voir ce que ça fait de bouger comme ça. Parce que moi, ça n'a rien à voir quand je bouge toute seule chez moi en pyjama en train de danser sur du Buraka Som Sistema en me prenant pour une sorte de showman de la danse contemporaine. Je pense que je suis loin du compte. Mais là, on assiste à la relève de l'Helvético Dancer. Ouais, je viens de l'inventer, cette expression, parce que je trouve que ça match. Et ça montre de quel bois on se chauffe par ici. C'est l'environnement culturel qui reçoit du lourd. Je vous le dis, et vraiment, ça fait du bien.
Et quand tu dis conviction, c'est encore mieux. Mais alors, dis-nous, dans ces 7 créations de danse contemporaine, est-ce que tu as eu néanmoins quelconque coup de cœur ?
Oui, en effet, même si je dois dire que tous ont su m'amener à quelque part. Hein. Mon cœur, par contre, balance un peu plus et se porte sur la pièce Electrum de Judith Dess. Elle et ses danseurs m'ont emmené très haut, ou alors très très loin, je ne sais plus trop, dans leur univers entre musique baroque et son électro-trap. Un chœur de danseuses et de danseurs qui déploie sur la scène une sorte d'histoire de l'art de la danse. Car oui, c'est bien ça qu'interroge Judith Dess d'une certaine manière. La jeune chorégraphe évoque le marquage historique des divers courants et techniques sur le corps des danseurs. Et de génération en génération, Judith Dess donc s'inspire des courants révolutionnaires et pionniers de son art pour innover et réinventer sur le plateau. Et franchement, ça marche. J'étais en amour devant ces 15 minutes de danse qui m'ont tenue jusque dans mon sommeil la nuit suivante.
Et bien voilà qui est beau, qui donne envie d'aller au printemps de Sèvelin. Merci beaucoup Claire. Et après ces paroles pleines de pas chassés dans le flow tech et trap. On écoute un morceau dans la ligne de ce que tu as pu entendre sur scène jeudi dernier. Parmi ces jeunes danseurs, voici. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Like a boom, 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 boom. Voilà quelques extraits de musique flow tech et trap qu'on pouvait entendre jeudi dernier, notamment dans le cadre de ces quarts d'heure de Sévelin. Merci beaucoup Emeline, Julie et Claire. Vous dire encore que vous aurez une émission spéciale le samedi 3 mars sur Radio Django. Emeline.
Ouais, en effet, une super édition qu'on est en train de vous concocter avec notamment la couverture du spectacle et du workshop de Ripides, Lazaridis, pardon.
Prénom, un nom de famille assez facile à prononcer, évidemment.
Oui, bah oui, et puis à écrire aussi.
Oui.
On va aussi avoir une interview de Philippe Serre et de quelques participants au quart d'heure, et puis tout ça enrobé d'encore plein de sujets passionnants. Voilà.
Donc rendez-vous samedi 3 mars, ça fait dans une dizaine de jours, c'est Culture Radio. À quelle heure l'émission ?
Ça commence à 17h30.
Voilà. Voilà. Le rendez-vous est pris donc le samedi 3 mars, 17h30, Culture Radio pour vous sur Radio Django et partout ailleurs évidemment. On vous met tous les liens sur notre site www.django.fm. On parlait ce soir du quart d'heure de Sévelin. Merci les filles. Merci. Le grand direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé de l'aide aux sans-abri avec la Maraude Lausanne. Nous avons également parlé du printemps de la poésie avec Voix d'exil et Anouche tout à l'heure. Et puis dans l'actualité de Sévelin avec le printemps de Sévelin et les quarts d'heure de Sévelin. C'est ce que nous vous proposions au menu de Cultiver Lausanne. Ce soir, tous ces sujets sont à retrouver en tout temps et à volonté, sans discrétion, sur notre site www.adjango.fm. La semaine prochaine, on vous parlera d'une exposition photo Temu Kwikwi. A-t-il le droit à la liberté ? C'est une expo photo qui sera le vendredi 2 mars à partir de 20h30. Une exposition dont Jean-Luc viendra nous parler et nous vanter les mérites. Ce sera au menu de Cultiver Lausanne mardi prochain. Rendez-vous donc mardi prochain justement à partir de 18h pour une nouvelle édition du Grand Direct. À écouter comme chaque semaine sur radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est précisément 19h sur Radio Django et Radio La Fabrique. À mardi.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.